Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie. Édouard Rosset.
Bonjour et bienvenue dans Éclairage. Cette émission de Canal Académie est destinée à vous faire découvrir, vous permettre de mieux appréhender ou comprendre un fait d'actualité à travers le témoignage et les explications d'acteurs et d'experts. Aujourd'hui, Éclairage se penche sur la confection de la loi. Comment naît une loi? Comment évolue-t-elle? Comment vit-elle? La confection de la loi est justement le sujet d'un rapport de l'Académie des sciences morales et politiques qu'a dirigé le professeur Roland Drago, membre de l'Académie des sciences morales. Roland Drago, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. À vos côtés pour parler de ce sujet, je dirais en permanence d'actualité, Canal Académie a invité M. Philippe Marini, sénateur de l'Oise, maire de Compiègne et puis rapporteur de la Commission des finances du Sénat. Bonjour Philippe Marini.
Bonjour.
Alors Roland Drago, je le disais, ce rapport que vous dirigez, que vous avez dirigé et qui sera bientôt publié aux Presses universitaires de France, est un document estampillé, Académie des sciences morales et politiques. En quoi ce sujet intéresse-t-il l'Académie?
Eh bien, depuis sa création, ou plutôt sa recréation en 1832, puisqu'elle avait été, elle n'avait pas d'existence complète avant la Révolution, et elle avait été supprimée par Napoléon, qui avait peut-être peur d'avoir à entendre des critiques trop vives de la part d'une institution académique. Elle a été recréée en 1832, sous le règne de Louis-Philippe par Guizot. Et elle est divisée en plusieurs sections qui s'occupent de la morale, de la sociologie, de l'histoire, de la géographie et du droit. Elle a une section de droit qui a donc toujours été permanente depuis 1832 et dans laquelle un certain nombre de juristes depuis cette époque ont figuré. Et le rôle de cette section, qui s'appelle section de législation, droit public et jurisprudence, le rôle de cette section, c'est justement de réfléchir sur les problèmes juridiques de l'époque.
Alors, par rapport à d'autres États modernes, peut-on dire que la France est en retard, justement, sur les études et les réformes relatives à ce sujet de la loi?
Vous savez, on a trouvé un mot savant pour parler de ceux qui étudient les problèmes de la loi. C'est d'ailleurs les problèmes du droit, d'une façon générale, mais non pas en ce qui concerne le fond, mais en ce qui concerne les méthodes d'expression, les techniques d'expression. C'est ce terme de légistique qui est un terme qui a une signification assez scientifique, mais qui peut attirer et qui implique des études sur la pratique de la législation, le nombre des lois, la rédaction des lois, le sens des lois, le problème de cet aspect du développement du monde qui est actuellement d'aboutir à la fois à une extension considérable du nombre des lois et en même temps à une dénaturation de leur qualité au fur et à mesure que ces lois deviennent plus nombreuses. Au XIXe siècle, les lois étaient plus rares, elles étaient rédigées pendant une période plus longue et elles avaient des rédactions qui étaient beaucoup plus rationnelles à certains égards. Actuellement, les lois sont nombreuses, elles sont imposées par la nécessité. Quelquefois même, elles ont des aspects qu'on veut pédagogiques et qui sont peut-être démagogiques et qui sont très proclamatoires. Et par conséquent, on peut trouver que, aussi bien dans son style que dans son contenu, la loi est devenue, dans notre pays en tout cas, un texte qui couvre trop de matière et qui, par conséquent, devrait aboutir à une amélioration. Le phénomène est un phénomène mondial, mais les pays l'ont pris avec des angles d'attaque différents selon les circonstances.
Sénateur Marini, c'est aussi l'avocat que nous recevons aujourd'hui, avocat au barreau de Paris. Vous confirmez, enfin, vous partagez un petit peu les propos du professeur Drago en matière d'évolution de la loi?
Oui, trop de lois, pourrait-on dire, tue la loi. Dans la conception initiale, la loi expression de la volonté générale est une sorte de parole sacrée. C'est la parole de la société, c'est l'expression du choix d'organisation de cette société. Le XIXe siècle a été le siècle fondateur de nos techniques juridiques, en particulier le début du XIXe siècle. Et chacun peut regarder avec un peu de nostalgie la qualité d'expression, la qualité du français législatif. Nous en sommes loin aujourd'hui et le phénomène d'accélération dont parle le doyen Drago est manifeste. Prenons un exemple. Le droit des sociétés commerciales, la grande loi organisatrice, 1867. La grande loi de réforme, 1966, un siècle après. Depuis 1966, il a été nécessaire, non pas de tout refaire, mais de reprendre la quasi-totalité du champ couvert par cette loi qui, à l'époque, avait été porté par le garde des Sceaux Jean Foyer, n'est-ce pas, membre de l'Académie des sciences morales et politiques aujourd'hui. Et les choses se sont accélérées du fait de l'évolution économique, de l'évolution des techniques, du fait également du droit communautaire qui progressivement couvre un champ de plus en plus large. Et c'est maintenant presque chaque année qu'on légifère sur les sociétés commerciales.
Donc c'est une évolution, je dirais, nécessaire, une évolution utile, évidemment, et une évolution inéluctable. En aucun cas, elle relève d'une volonté politique ou juridique.
Il faut arriver à faire prévaloir, me semble-t-il, malgré cette réalité d'aujourd'hui, un certain esprit des lois. Et bien montrer que notre approche... L'approche du droit français n'est pas l'approche anglo-saxonne. Les anglo-saxons raisonnent à partir de l'expérience. Ils n'ont pas les mêmes concepts que nous et ils attachent sans doute moins d'importance que nous aux principes. Et si nous savons, tout en nous adaptant au temps présent, demeurer fidèle à notre patrimoine législatif et conceptuel, nous pouvons certainement faire de très bonnes lois.
Roland Drago, vous partagez ce point de vue ?
Oh, moi, je le partage entièrement. Et je dois dire qu'à nombreuses reprises, j'ai dit à l'occasion des réunions de ce groupe de travail que les meilleures lois, on pouvait les considérer comme celles qui ont été les lois de la première partie de la Troisième République. Il y a beaucoup de raisons à cela. Il est certain qu'il s'agissait de bâtir la République à cette époque, à partir de 1875. Je ne parle pas de la seconde période, qui a été une période de déclin. Chacun le sait, hélas. Et j'ajoute qu'il y avait une autre raison. Les lois étaient moins nombreuses, c'est évident, parce que les nécessités étaient moins nombreuses. Mais surtout, elles étaient beaucoup mieux délibéré, et monsieur le sénateur, je pense que ça doit vous faire plaisir, je pense que les navettes, qui à l'époque étaient très constantes, étaient un facteur de faire intervenir les deux assemblées, et que même si on n'était pas pressé par le temps, justement, une loi pouvait être discutée pendant plusieurs années. Et j'ai donné comme exemple la loi de 1898 sur les accidents du travail. Cette loi, il a fallu 7 ans pour l'adopter à partir de décisions de jurisprudence et ensuite des navettes constantes entre les deux assemblées, mais on est arrivé à un texte qui a encore toute sa valeur aujourd'hui. Autrement dit, il y a là une intervention du bicaméralisme, il existe aujourd'hui, mais avec peut-être moins d'importance qu'à l'époque dont je parle.
Monsieur le sénateur, on doit aller plus vite aujourd'hui dans la confection d'une loi. Les navettes dont parlait le doyen Drago
Nous ne sommes plus sous la Troisième République, donc... Nous ne sommes plus dans un régime de bicamérisme intégral. Dans le bicamérisme intégral, les deux chambres ne peuvent pas être contraintes à se mettre d'accord. Elles doivent y arriver. Dans le régime de la Constitution de 1958, il existe des procédures d'urgence pour accélérer le cours législatif, le gouvernement ayant la capacité de demander, à un certain moment, la réunion d'une commission mixte paritaire qui aboutira à un accord ou à un échec. Et dans le cas de l'échec, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Ceci ne doit pas faire ignorer que beaucoup de lois ne sont pas élaborées avec la procédure d'urgence et que même en procédure d'urgence, l'examen par les deux chambres conserve une grande vertu. Le Sénat, en particulier, doit s'imposer, puisqu'il a moins de pouvoir institutionnel, par plus de travail et plus de continuité.
Nous reviendrons justement également en détail sur ce travail parlementaire, le travail du Sénat. Tout d'abord, peut-être, professeur Drago, une date, 1991, et un rapport du Conseil d'État à l'époque, un rapport intitulé « De la sécurité juridique » et qui dressait un état des lieux, il faut bien le dire, pas très très brillant. Hein. C'est ce qui a un petit peu déclenché votre démarche à l'Académie des sciences morales et politiques.
Oui, ce rapport de 1991 avait comme rapporteur Madame Chandernagor, et on a le plaisir de lire ce rapport qui est écrit dans une langue très littéraire, finalement, avec des mots très sévères, des expressions très sévères qui figuraient dans ce rapport sur cette législation proclamatoire.
On parle de droit mou, de droit flou, oui. De la hâte avec laquelle sont préparés et examinés certains textes.
C'est certain, et le rapport était extrêmement sévère, et justement sévère, pour des raisons sur lesquelles on va revenir, évidemment. Mais il n'a pas eu de suite, il a gardé lui-même un caractère purement proclamatoire, même s'il a en effet proposé un certain nombre de réformes qui, pour la plupart, n'ont jamais été faites à ce jour.
Et pourquoi justement un rapport du Conseil n'est pas suivi d'effet, je dirais. Bon, depuis 91, on aurait pu faire évoluer les choses, on aurait pu même au niveau des parlementaires. Est-ce que les parlementaires s'y sont intéressés, monsieur le sénateur ?
Sans doute, mais je voudrais revenir à un propos très juste, je crois, tenu à l'instant par le doyen Drago. La loi est trop souvent proclamatoire. La loi, dans son essence, doit émettre des prescriptions précises. Elle doit être normative. Elle crée un ordre de normes. Bien souvent, pour des raisons de gestion politique, on exprime des principes généraux non susceptibles d'application concrète. Exemple, une loi sur l'air part d'un article premier qui dit en substance « tout homme en France a le droit de respirer un air pur ». D'autres expressions de même nature existent dans la loi. C'est à mon avis une mauvaise tentation à laquelle il ne faudrait pas céder, de même que, bien trop souvent, un membre de l'exécutif, un ministre, considère qu'il n'est pas complètement ministre, il n'attache pas son nom à une loi. À la limite, quel que soit le caractère substantiel de cette loi. Dans des domaines comme celui de l'économie d'entreprise ou de la fiscalité, on cède trop souvent à la tentation du pointillisme parce qu'il faut avoir l'air de faire même si l'on n'a pas forcément les moyens de faire, par exemple les moyens financiers. Nous devons, bien entendu, tous collectivement, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, bien réaliser qu'en se comportant ainsi, on risque fort de déprécier la loi, car une loi trop proliférante est une loi difficile à appliquer, difficile à aborder, difficile à comprendre, difficile à décrypter, nécessitant beaucoup d'interprétations. Une loi, en définitive, peu efficace qui se déprécie. Et une société où la force de la loi est érodée n'est plus complètement une société démocratique.
Alors voilà le décor bien planté, messieurs, et je vous remercie de cette initiative. Nous marquons une première pause dans cette émission Éclairage, consacrée donc à la confection de la loi. Nous renvoyons bien sûr à la lecture de ce rapport qui sera prochainement publié aux Presses universitaires de France, rapport dirigé par Roland Drago, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Monsieur le professeur Drago est avec nous, ainsi que monsieur le sénateur Philippe Marigny, sénateur de l'Oise, maire de Compiègne et rapporteur de la Commission des finances du Sénat. Nous marquons donc une très courte pause. Nous nous retrouvons dans un instant.
Canal Académie. Thank you. Canal Académie. On retrouve Édouard Rosset.
La confection de la loi, c'est donc le thème développé dans notre émission Éclairage aujourd'hui, Éclairage sur Canal Académie, la première radio académique francophone sur Internet, donc à travers le monde entier. Nous parlons de cette confection de la loi, la construction de la loi et de l'évolution nécessaire. Monsieur le sénateur Philippe Marini, nous avons effectivement tout à l'heure dressé le portrait, nous avons fait un état des lieux, donc nous avons vu en conclusion que la loi doit évoluer, l'évolution est nécessaire. Comment, je dirais ? Alors là, vaste débat évidemment, mais quelles seraient et quelles sont, je pose directement la question au sénateur, quelles sont les pistes de réflexion que nous pouvons mettre en place tout de suite, efficacement ?
Ce n'est pas simple. Et ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Si des lois apparaissent peu lisibles, c'est qu'elles ne sont pas bien conçues. Et c'est aussi parce que l'on n'a pas pris, et là nous entrons dans le domaine de la technique, le temps d'écrire ou de réécrire. Les choses, en particulier dans la législation économique, se superposent, se sédimentent sans cesse. Et nous voyons apparaître une réalité qui est la législation par référence. On fait des inclusions dans la loi, plutôt que de rédiger de nouvelles lois. Pour procéder autrement, il faudrait tout remettre à plat et reprendre, en tirant le fil, maints textes antérieurs pour s'atteler au travail devant une feuille blanche. Ceci peut soulever divers problèmes d'arbitrage de différentes natures. Et l'une des choses que l'on observe dans la législation économique et fiscale, c'est la très grande illisibilité de nos textes. Pour comprendre un texte, il faut se référer à un autre, qui renvoie à un troisième, qui peut renvoyer à un quatrième.
Donc complexité de lecture et puis peut-être défaut d'appréciation et d'interprétation aussi.
Cela nécessite des compétences spécialisées. Là, le meilleur exemple en la matière, c'est le Code général des impôts, n'est-ce pas ?
Très bel exemple.
Mais le Code général des impôts n'est plus un texte de lecture directe. Mmh. Il ne peut se lire qu'avec des commentaires qui permettent de comprendre ce que l'on a voulu écrire, ce que l'on a voulu prescrire. Pour qu'il en aille autrement, et il faudrait beaucoup de facteurs favorables.
On ne peut pas faire tabula rasa quand même, on ne peut pas tout mettre à plat, tout recommencer, tout refaire.
On ne peut pas toujours le faire, on ne le fait sans doute pas assez souvent. Et c'est là peut-être que nous pouvons évoquer l'évolution de la technique législative et en particulier le rôle de la codification. Ce que vous dites, faire tabula rasa et réexprimer, c'est ce que voudrait faire la codification à droit constant. On ne change pas le fond, mais on exprime mieux. On enlève les scories et au lieu...
On parle plus clairement.
On parle plus clairement. Au lieu de superposer des dispositions qui se font référence les unes aux autres, on retrouve un fil directeur et presque littéraire autant qu'il est possible. Mais la codification est un travail prodigieux, c'est un travail de bénédictin, sans cesse à reprendre, sans cesse à recommencer, et très vite dépassé par l'évolution des contraintes, la nécessité de transposer des directives européennes et de faire face à la réalité.
Alors là, c'est la parole de l'acteur, je dirais, du sénateur, Roland Drago.
Eh bien, nous allons revenir sur la codification dans un instant, si vous le permettez, mais auparavant, je voudrais dire que le remède existe. Le remède existe et c'est toute l'importance qu'a notre Constitution qui a voulu instituer ce qu'on a appelé, peut-être d'une façon malicieuse, le parlementarisme rationalisé, et pourtant l'expression est bonne. Et il a été décidé dans cette Constitution qui remonte à 1958, à propos de la loi, que, premièrement, la loi ne porterait que sur des problèmes fondamentaux dont l'article 34 de la Constitution donne la liste. Deuxièmement, que si une loi sortait du domaine de défini par cet article 34 qui énumère les matières fondamentales qui doivent ressortir à la compétence de l'autorité parlementaire et donc de la souveraineté nationale, que si la loi débordait ce domaine, soit on pouvait arrêter le débat devant l'Assemblée parlementaire saisie, soit après coup, la faire contester devant la juridiction constitutionnelle, qui a pris d'ailleurs dès cette époque, car les Français étaient jusque-là hostile à une juridiction constitutionnelle. La juridiction constitutionnelle mise en place en 1958 et qui n'a cessé d'étendre ses pouvoirs, pouvait donc ramener la loi à ce domaine principal qui est énuméré dans l'article 34. Et j'ajoute en plus que même dans cet article 34, il y a des distinctions qui sont faites. Il y a des cas dans lesquels la loi doit régler toute la matière et par conséquent, toute la matière relève donc de la loi. Et puis il y a dans les alinéas de la fin de l'année de l'article 34 les matières dans lesquelles la loi va régler seulement les principes fondamentaux. C'est une distinction qui a été reprise par le traité constitutionnel sur l'Europe, qui distingue entre les lois qui vont tout régler et les lois cadres qui se contentent de formuler les principes fondamentaux. Malheureusement, et je m'arrête là parce qu'il faut qu'on entreprenne un débat sur ce point, malheureusement, le texte n'a pas été appliqué tel qu'il était prévu et la, comment dirais-je, une sorte de dynamisme politique l'a emporté sur le cadre juridique qui était fixé par la Constitution elle-même.
Alors, pardonnez-moi une question très naïve, il est vrai, je dirais, quelle est la part de l'humain dans la confection de la loi ? Parce que quels sont les types de données qui entrent en compte ? Quelle part revient, par exemple, à l'analyse critique ou à l'interprétation ? Je dirais, là, on a vraiment l'impression d'être dans un carcan administratif, juridique. Est-ce qu'il y a une part d'humanité, quand même, dans la confection d'une loi, sénateur Marigny ?
Oui, bien sûr, puisque à certains moments dans le processus, la seule façon de sortir d'une difficulté, c'est d'arrêter la séance, c'est de suspendre et c'est de prendre une feuille de papier et un stylo. Ça, c'est l'humain. Et cela arrive assez souvent. Et j'ai le souvenir, bon, parce que lorsque je suis entré au Sénat, c'était un personnage considérable, qui a eu un rôle législatif considérable, et j'ai le souvenir du président Étienne Dailly, qui aimait beaucoup cette dynamique législative. Je partage personnellement ce grand intérêt, et qui n'hésitait pas à faire cela, n'hésitait pas à demander, lorsque le débat devenait confus, la suspension. Et j'en ai bien des exemples en tête. En règle générale, on arrive à trouver des solutions si l'on a l'honnêteté intellectuelle de bien réfléchir à ce que l'on veut écrire. Et souvent, des difficultés de séance ont été résolues simplement parce que l'on s'est attelé directement à la rédaction. On ne doit jamais considérer que le texte qui parvient est un texte inéluctable. Enfin, le Parlement doit épuiser sa compétence. Il n'est pas à la remorque de l'administration, car c'est bien une réalité d'aujourd'hui. Les textes, en particulier les textes spécialisés, sont le produit de technostructures, quel que soit le gouvernement. Et les technostructures écrivent avec les mots de notre époque, les tournures de notre époque.
Les rigidités de notre époque,
nous ne sommes plus autant de Portalis, hélas, dans ce domaine. Donc, parfois, les parlementaires peuvent intervenir, une commission, le rapporteur, pour dire non, on n'y arrivera pas avec la tournure que vous avez choisie, avec la démarche intellectuelle que vous avez choisie. Il faut arrêter là, il faut reprendre et il faut réécrire. Ça, c'est la part de l'humain.
Donc la codification n'empêche pas l'humain, n'écarte pas l'humain.
La codification, elle vient ex post. Codification, elle vient après. La codification, elle n'innove pas dans la loi. Elle n'innove pas. Elle réaménage la loi pour la rendre plus compréhensible, plus accessible, plus méthodique. Elle reclasse les matières et elle améliore cette présentation.
Alors, nous avons parlé tout à l'heure de l'un des moyens, l'un des outils pour modifier la loi. Il s'agit de la légistique, le terme a été prononcé. Il fut utilisé, je crois, Monsieur Drago, pour la première fois au XIXe siècle. C'est en fait la construction d'une méthodologie juridique. On peut revenir un petit peu sur ce principe de légistique.
Oui, on y reviendra, mais je voudrais qu'on reste sur ce problème de l'inflation législative que le constituant de 1958 avait voulu condamner en laissant seulement à la disposition du législateur les matières les plus importantes pour éviter justement l'extension de ce phénomène, du développement législatif. Et cette disposition de l'article 34, malheureusement, pour des raisons politiques que je comprends à certains égards, n'a pas donné les résultats que l'on supposait et finalement, quelques gouvernements que ce soit et quelques juges que ce soit ont laissé passer des matières qui sont aujourd'hui régies par la loi et qui n'auraient pas dû l'être, de telle manière que les lois devraient être aujourd'hui plus simples, proclamer seulement des principes, s'en remettre au décret d'application pour les modalités techniques, et que ceci ne s'est pas fait, et ne s'est pas fait pour des raisons qui tiennent à des débats de caractère politique au Parlement, les relations entre le gouvernement et le Parlement.
Ça pèse encore aussi beaucoup et aujourd'hui, sénateur.
Pas seulement, à mon avis, car au-delà de ces aspects qui sont bien réels, il y a la capacité de l'administration à écrire et à sortir dans des délais acceptables les textes d'application. Quand on vote une loi, et qu'après sa promulgation, son applicabilité dépend de la publication de plusieurs dizaines de décrets d'application, les choses sont suspendues et dépendent du bon vouloir des services administratifs qui, parfois, n'ont pas les moyens ou pas le désir de se précipiter. Il arrive aussi que le Parlement prenne des initiatives qui ne plaisent pas à la sociologie administrative et que celle-ci se venge en traînant les pieds et en ne sortant pas les décrets d'application.
On ne peut pas avancer dans ces conditions.
Eh bien, dans ce cas, que fait le Parlement ? Il s'assoit sur les décrets d'application et il va jusqu'au bout. Et en effet, il fait ce que dit Monsieur le professeur Drago. En effet. Il faut bien voir que lorsqu'on fait nos propres exercices d'évaluation, on les fait chaque année. On regarde, par rapport aux lois promulguées, quelles sont celles qui sont réellement en application. Quels sont les décrets d'application qui sont sortis et ceux qui sont en retard. La réalité est contrastée. Et il peut se faire que le Parlement et même les ministres choisissent des solutions qui ne caressent pas l'administration dans le sens du poil. Et que celle-ci, je le répète, prend son temps, trouve des difficultés supplémentaires à régler, recycle le problème, essaye de reposer une question déjà résolue par le vote parlementaire. Ça, c'est la réalité humaine.
Alors, c'est un jeu plaisant, mais qui ne fait pas vraiment avancer les choses.
Non, mais cela explique que la loi aille parfois plus loin que le domaine qui lui est imparti par l'article 34 de la Constitution.
Donc la faute n'est pas uniquement aux politiques, professeur Nargaud.
Oh oui, c'est tout à fait vrai, et ça je suis entièrement d'accord. Il n'empêche qu'il faudrait qu'on s'en tienne à ce respect de l'article 34 qui fait que les lois ne devraient porter que sur des matières principales, mais il est vrai que ce que vient de dire M. Marigny est tout à fait exact. L'administration, quelquefois, crée des difficultés d'application ou au contraire essaye de ralentir les opérations. Je voudrais revenir à ce mot de légistique dont vous avez parlé tout à l'heure.
Nous allons marquer une pause auparavant, monsieur le professeur, si vous le voulez bien. Nous nous retrouvons dans un très très court instant. Nous parlons donc dans Éclairage sur Canal Académie de la confection de la loi autour d'un rapport rédigé par un groupe de travail présidé par donc monsieur Roland Drago, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Nous en parlons également aujourd'hui avec monsieur le sénateur de l'Oise, maire de Compiègne et rapporteur de la commission des finances du Sénat, Philippe Marigny. À tout de suite.
Canal Académie.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques. Les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année, Radio-Canal Academy leur donne la parole. Connectez-vous et écoutez.
Édouard Rosset.
Si vous nous rejoignez sur Canal Academy, soyez les bienvenus dans l'émission Éclairage. Aujourd'hui, nous parlons de la confection de la loi depuis un rapport publié. Tout d'abord, un rapport préparé, présidé par M. Roland Drago, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Un rapport qui sera prochainement publié aux Presses universitaires de France. Monsieur le professeur Drago est l'invité de notre émission aujourd'hui, aux côtés de Philippe Marigny, sénateur de l'Oise, maire de Compiègne et rapporteur de la Commission des finances du Sénat. Le terme, je le disais, avait été prononcé tout à l'heure, la légistique. Monsieur le professeur, qu'est-ce que la légistique concrètement, et dans des termes simples, je dirais?
C'est un mot qui est assez joli. Oh, c'est un mot qui est apparu, en effet, à la fin du XIXe siècle et qui consiste à regrouper toutes les disciplines qui s'occupent de la formation, de la confection, de l'exécution, de la forme, du contenu des lois. Et comme toute science nouvelle, c'est une science qui peut peut-être un peu dériver vers le scientisme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, il faut la prendre avec une certaine, un certain empirisme finalement. Mais dans tous les pays du monde actuellement, et la bibliographie est considérable, dans tous les pays du monde, on essaye de simplifier la législation, c'est-à-dire de faire en sorte que les lois soient moins nombreuses, d'une part, ou d'autre part, que les lois soit rédigée dans des termes plus simples et que finalement, elle soit les règles fondamentales dans un État démocratique et qu'elles ne soient pas aussi nombreuses qu'elles le sont aujourd'hui. Mais la France a peut-être certains retards dans ce domaine, mais il n'empêche que c'est un phénomène mondial qui est lié à la situation des États modernes et la légistique essaye d'y trouver sa voie.
Si on fait un petit peu d'histoire, le terme fut utilisé pour la première fois au XIXe siècle, si je ne m'abuse, et ensuite c'est vraiment en France, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'on l'a plus découvert et appliqué.
Oui, certainement, mais dans d'autres pays aussi, il y a la légistique, et à mon avis, le pays qui a fait des études les plus approfondies dans ce domaine, c'est la Suisse, il y a à Genève, il y a un centre de légistique, et qui est très approfondi et qui arrive à trouver des méthodes, des recettes. Et c'est peut-être là, monsieur le sénateur, justement, il est important de connaître votre opinion, peut-être on va trop loin dans ce cas-là quand on cherche des recettes et des méthodes.
Alors, y a-t-il une bonne loi, y a-t-il une bonne recette pour faire une bonne loi?
Je crois qu'il faut progresser dans les méthodes. Aujourd'hui, nous vivons sur une sorte de fiction. La loi est délibérée par les assemblées en séance plénière, après l'examen des textes par des commissions permanentes. Tout est délibéré en séance plénière, avec l'arsenal que cela représente, les services qui sont au travail, le compte-rendu, la séance, enfin, tout ce qui fait la pompe de la loi, en quelque sorte. Parfois avec peu de participants dans l'hémicycle. Il faut bien le reconnaître. Mais si je parle de faire évoluer la technique d'élaboration de la loi dans les assemblées, c'est parce que je pense que dans les textes, il y a une gradation à observer. Il y a des choses fondamentales et il y a de la technique, même dans le domaine de la loi au sens de l'article 34 de la Constitution.
Quelles sont les choses fondamentales ?
Choses fondamentales, ce sont les principes. Ce sont les principes. Et ensuite, il y a, prenons l'exemple de la législation financière. Nous avons voté une loi de sécurité financière qui réorganise le droit des marchés financiers. Nous avons voté ce texte l'année dernière, en 2003. Il y a, à la vérité, quelques articles fondamentaux et le plus grand nombre d'articles qui traitent de matières techniques. Ces matières techniques, à mon avis, devraient faire l'objet d'une législation en commission. Et cela peut nécessiter plusieurs lectures, cela peut nécessiter du temps, un apprentissage patient, mais cela ne nécessite pas, de mon point de vue, le passage en séance plénière.
C'est-à-dire le débat.
Le débat, la discussion générale peut se tenir en séance plénière. Et la conférence des présidents qui organise les travaux pourrait décider, si cette réforme un jour était adoptée,
que certains articles, par leur importance stratégique, nécessitent le débat en séance plénière, le reste pouvant être renvoyé à la commission qui, lorsqu'elle siégerait en séance délibérative, devrait le faire, bien sûr, en présence du gouvernement, pour que le jeu institutionnel se déroule. Moi, je suis frappé par une chose, vous savez, comme praticien, souvent, dans les domaines financiers, fiscaux, de législation financière, il y a plus de participants à la séance de commission qu'à la séance plénière. Parce que ceux qui sont investis dans le sujet sont en commission et que, en règle générale, au Sénat, dans la culture du Sénat, les amendements de la commission ont une très, très, très grande chance d'être adoptés en séance plénière. Et donc, tout ce qui est important, crucial, se passe en commission. Et ensuite, en séance plénière, nous avons un jeu de rôle. Un jeu de rôle qui utilise les formes et fait intervenir la pompe de la loi qui nous vient du 19e siècle. Les Britanniques appellent la législation en commission législation secondaire. Et à la Chambre des communes, une grande partie des matières sont traitées par la législation secondaire. Je pense que nous serions bien inspirés de dépousseter notre dispositif et nos procédures parlementaires et de dégager du temps parlementaire. Car vous savez, l'une des choses les plus rares, l'une des denrées les plus rares pour un gouvernement comme pour le Parlement, c'est le temps parlementaire. Il y a toujours trop peu de temps pour examiner les textes.
Le fameux calendrier.
C'est le calendrier, n'est-ce pas ? Et si l'on arrivait à faire la part des choses, bien souvent d'ailleurs, dans les matières techniques, il n'y a pas de clivage politique. Peut-être que l'opinion serait surprise d'entendre cela, mais c'est la vérité, c'est la vérité. Il y a un très grand nombre de choses qui sont traitées techniquement parce que la réalité est ainsi. Et puis il y en a d'autres, bien sûr, sur lesquelles se fondent, et c'est tout à fait naturel, c'est la démocratie, le clivage politique, les différences d'appréciation idéologique, etc., etc.
Bien sûr, c'est le débat démocratique nécessaire, mais nous prendrons le temps, avant le terme de cette émission, de voir un petit peu, je vous poserai la question, l'approche du citoyen par rapport à la loi aujourd'hui. C'est vrai qu'on entend généralement, c'est un petit peu la discussion du café du commerce, mais les lois sont faites par les petits, ils font les lois pour eux, etc., etc. Quel est le poids, sénateur Marigny, des lobbies, par exemple? On connaît l'importance des lobbies dans la politique européenne. Il y a même des lobbyistes professionnels qui circulent dans les couloirs de la Commission européenne. Ce n'est pas le cas, évidemment, au Sénat et à l'Assemblée nationale.
Oh, bien
vous
sûr
vous
que
rencontrez
si.
À l'extérieur.
Les groupes d'intérêt s'expriment, demandent des rendez-vous, font circuler leurs papiers et ont accès à la tribune du public. Et d'ailleurs, bien souvent, lorsqu'une loi est délibérée, regardez qui est dans la tribune, ce sont les gens concernés par le sujet. Lorsqu'on adapte le statut législatif de EDF et GDF, eh bien, ce sont les représentants des syndicats qui sont là, dans la tribune.
Dans la rue aussi, parfois, oui.
Oui, peut-être, mais ils sont dans la tribune, ils suivent le débat avec attention, et c'est normal, ça les concerne. De même, les groupes d'intérêt, les organisations professionnelles de la comptabilité étaient dans les tribunes lorsque nous délibérions de la réforme de la comptabilité dans la loi de sécurité financière, des dispositifs qui les concernent directement. Donc, les lobbies, c'est un mot qui, en France, paraît grossier. Et bien entendu, il faut savoir prendre de la distance par rapport aux intérêts catégoriels. Mais ils sont, d'une certaine manière, utiles et nécessaires, parce qu'on ne peut pas légiférer dans le vide et hors du contexte. Donc il faut entendre, et il faut ensuite prendre des décisions dans l'intérêt général. Mais bien souvent, de mauvais lobbies qui travaillent mal, qui comprennent mal la procédure législative, exercent une influence très pernicieuse. Alors que de bons lobbyistes, quel que soit d'ailleurs le fond des choses, peuvent avoir un rôle concret et positif dans l'avancée de la législation. Toujours utile d'entendre ceux qui sont concernés, on n'est bien entendu pas nécessairement de leur avis.
Dans l'émission Éclairage, aujourd'hui, nous parlons de la confection de la loi. Monsieur le professeur Drago est l'invité de notre émission aujourd'hui, aux côtés de Philippe Marigny, sénateur de l'Oise, maire de Compiègne et rapporteur de la commission des finances du Sénat. Peut-on, professeur Drago, parler d'une véritable mutation de la norme législative aujourd'hui ?
Oui, je pense, mais je voudrais revenir sur ce qui a été dit, non pas à propos des lobbies, on pourra revenir sur les lobbies aussi, mais sur les propositions qu'a faites M. Marigny, parce que je suis absolument de son avis. Et vraiment, les Anglais l'ont fait, les Italiens l'ont fait, c'est-à-dire qu'un certain nombre de problèmes et de problèmes techniques peuvent être résolus en commission, à condition que les gens soient là dans la commission, que le gouvernement y participe, vous l'avez dit. Il faudrait qu'on arrive très rapidement à une réforme de ce genre, qui est à peu près celle de tous les pays développés à notre époque. On l'a adoptée chez nous à propos de la ratification des traités, où là aussi on a trouvé une procédure simplificatrice, mais pour toutes les lois, sauf peut-être des lois fondamentales qu'il faudrait déterminer, il faudrait arriver à cette procédure qui existe maintenant dans d'autres pays. On est étonné de voir qu'en France, cette procédure n'est pas adoptée alors qu'elle a une valeur scientifique. Vous parlez de légistique, et bien la légistique l'a trouvée depuis longtemps. Elle a une valeur scientifique plus grande parce que là, ce sont les spécialistes. Et comme vous l'avez dit, monsieur le sénateur, tout le monde vient dans la commission, n'est-ce pas ? Au Parlement de Londres, la différence est peu sensible, on enlève la masse d'armes, et à ce moment-là, ça n'est plus, c'est une commission, et non plus l'ensemble du Parlement.
Qu'est-ce que c'est, ça, la masse d'armes, pour l'anecdote, professeur Drago ?
C'est celle que porte l'huissier. C'est celle que porte l'huissier quand commence la séance et qu'il pose sur la table de la Chambre des communes ou de la Chambre des pairs, de la Chambre des lords.
D'accord.
Bon, enfin, peu importe. Mais le procédé simplificateur est celui-là. Il est à la fois simplificateur, plus rapide, et en même temps faisant intervenir des notions beaucoup plus profondes, beaucoup plus techniques peut-être, mais nécessaires. Et par conséquent, on arriverait à faire que les réunions d'ensemble des assemblées parlementaires se poseraient pour les questions de principe, interviendraient pour des questions de principe, et que pour toutes ces questions, comme on le fait déjà en Angleterre et en Italie depuis longtemps, et bien dans bien d'autres pays, les commissions auraient un rôle essentiel à jouer. Et on éviterait aussi, je rajoute à ce que vous avez dit, un problème qui est un problème important, qui est celui des amendements. Actuellement, il y a une dérive du droit d'amendement qui est aussi bien le fait du gouvernement que le fait des parlementaires. Et on pourrait de cette façon réduire la portée des amendements qui dénaturent la loi et qui la font dérailler dans des domaines qui sont démagogiques.
L'amendement, c'est un jeu politique, sénateur Marigny, non ? C'est une volonté d'obstruction, généralement.
Attendez, pas nécessairement. L'amendement, c'est l'expression de l'initiative parlementaire, donc un parlementaire est nécessairement très attaché au droit d'amendement. Il n'y a pas de parlement libre sans droit d'amendement. Mais si l'on se réfère au passé, si on prend les journaux officiels des débats de la Troisième République, on sera surpris de voir que les amendements étaient rares, très rares. Alors qu'aujourd'hui, les amendements prolifèrent. Il y a des amendements utiles, il y a des amendements qui sont de simples démonstrations, des amendements qui sont portés pour montrer qu'on s'intéresse à un problème. C'est là qu'est le dévoiement. D'ailleurs, quand vous assistez, si vous assistez à une séance législative, et si vous voyez qu'un texte d'amendement est véhiculé par tous les groupes politiques, à partir d'une expression professionnelle ou catégorielle, vous constaterez que c'est un amendement qui est purement démonstratif, qui veut dire « je m'intéresse à votre problème, je relais votre préoccupation ». Ce n'est pas de la législation. Des amendements de cette nature, d'ailleurs, la plupart du temps, sont rejetés, mais ne sont même pas faits pour être adoptés, si vous voulez. Il faudrait que l'on sache, en effet, se concentrer sur l'essentiel, ce qui serait une façon de revaloriser le rôle du Parlement.
Quand on voit 1000 amendements, même 2000 amendements à une loi, il y a eu à l'été 2004 l'épisode de la loi de Jean-Pierre Raffarin sur la décentralisation, ça bloque quand même le travail parlementaire, non ?
Alors, le droit d'amendement peut être utilisé soit pour amender le texte, il est fait pour ça, soit pour retarder l'adoption du texte. Et là, c'est une arme politique. C'est en quelque sorte le filibustering à la française. C'est ce que nous pouvons faire. Il y a des exemples, d'ailleurs, quelles que soient les majorités. J'ai le souvenir d'un débat sur l'ordre des scrutins. Souvenez-vous, à l'époque du Premier ministre Jospin, l'initiative avait été prise d'inverser l'ordre des scrutins nationaux. D'ailleurs, en pensant obtenir un résultat politique qui, dans l'expérience réelle, a été inverse. Mais peu importe. Le débat au Sénat n'était pas un débat organisé. Là, il faudrait entrer dans le détail du règlement et de ce qu'il permet de faire.
Ça fera l'objet d'une autre émission.
Et donc, chacun pouvait, en discussion générale, chaque sénateur parler trois quarts d'heure. Et donc, nous avons été très nombreux à parler trois quarts d'heure dans le sujet. Nous avons fait du droit constitutionnel, parlé du régime présidentiel, du régime parlementaire, de toutes sortes de choses. C'était un bel exercice, d'ailleurs. Mmh. Mais c'était fait pour retarder les choses. De la même façon, rappelez-vous, il y a un certain nombre d'années, la réforme de la loi Falloux, n'est-ce pas, qui avait suscité un tollé sur les bancs de la gauche. Eh bien, il y avait une kyrielle, une série très impressionnante d'amendements qui disaient la disposition de l'article X s'applique à tous les départements, sauf au département des Pyrénées-Orientales, et le suivant, sauf au département de l'Hérault, et le suivant, sauf au département du Gard, etc. Bon, c'était purement répétitif et fait pour faire durer le débat. C'était une forme d'opposition politique, un dévoiement du droit d'amendement.
Le juriste est littéralement désarçonné face à ce débat, ce prolongement du débat, non, professeur Brago ?
C'est-à-dire, ah bien, les Américains pratiquent bien le système du filibustering, n'est-ce pas ? C'est-à-dire de l'homme qui, ayant la parole, la gardera jour et nuit. C'est le thème même de ce film qui est bien connu, qui s'appelle Monsieur Smith à Washington. Et c'est qui est un très beau film et très courageux. Mais il faudrait simplement réglementer le pouvoir d'amendement des parlementaires et du gouvernement avec des limites et de temps et de matière, et d'autre part, augmenter le rôle des commissions. Voilà une manière concrète, et je crois que nous sommes d'accord l'un et l'autre sur ce sujet, voilà une manière concrète de trouver déjà un procédé qui permette d'améliorer et de simplifier la confection de la loi.
Philippe Marinier.
Alors, du côté du gouvernement, il y a aussi des excès qui peuvent intervenir, qui sont d'une nature différente. Il arrive qu'on voit débouler en séance des amendements extrêmement copieux de plusieurs pages sur des sujets substantiels et qui, dans certains textes dont l'objet est lui-même assez flou, couvrent des champs nouveaux qui n'étaient pas dans le texte initial adopté par le Conseil des ministres. Ceci est très conscient et organisé, car lorsqu'un ministre arrive avec un tel amendement, bien entendu, il est autorisé pour ce faire par le Premier ministre, cela va de soi, mais le texte n'est pas passé au Conseil d'État. C'est une manière, en quelque sorte, de simplifier et d'accélérer la procédure, ce qui peut être justifié par l'urgence, ce qui peut aussi être un simple expédient et un exemple de mauvaise gouvernance. Il faut savoir, le droit d'amendement du gouvernement étant sans limite, bon, sans limite, entendons-nous, il faut traiter du sujet de la loi. Mais une loi qui porte diverses dispositions d'ordre économique, par exemple, n'a pas de sujet. Le sujet, enfin, le centre est partout et la circonférence nulle part, en quelque sorte. Le gouvernement peut arriver à tout moment, dans le parlementarisme rationalisé de la Ve République, avec un amendement qui viendra renouveler, transformer la matière en cours de débat. Et alors, là, il y a une question, j'allais dire, de fair play, de bonne pratique des institutions. On peut traiter une question d'urgence, mais on ne peut pas ressortir ainsi une matière qui est étudiée depuis des mois et des années par l'administration, qui est connue, mais qui n'a pas franchi les étapes des arbitrages et du Conseil d'État.
Nous arrivons malheureusement bientôt au terme de cette émission. Il nous reste quand même quelques minutes. J'aimerais bien aborder la question de la perception de la loi par le citoyen. Est-ce qu'elle est prise en compte aujourd'hui par les rédacteurs de cette loi, Roland Drago? La perception, enfin le citoyen, quelle est la place du citoyen dans la démarche créatrice de la loi ?
C'est un problème qui est très vaste et qui a subi une évolution qui est liée, elle, à la médiatisation et aux formes de la médiatisation actuelle. On a le sentiment actuellement que, sauf pour des raisons politiques, mais dans l'acception mauvaise du terme, les citoyennes ne sont pas attirées par ces problèmes et qu'ils n'en ont pas une passion et que même les journaux n'en rendent pas compte d'une manière qui soit suffisamment correcte. Quand on compare la réaction des citoyens et la manière de présenter les débats parlementaires dans cette période, que je trouve une période qui me semble assez importante, qui est donc la première partie de la Troisième République, 1875-1914, eh bien, là, on voit que les grands débats, les débats sur la laïcité de l'État, par exemple, ou les débats sur les accidents du travail, dont j'ai parlé tout à l'heure, entraînaient dans l'opinion des discussions assez sérieuses. Actuellement, on a le sentiment que ces débats sont couverts et peut-être quelquefois même déformés avec des visions simplificatrices. Et on n'a pas le sentiment que les citoyens participent vraiment à l'action législative du Parlement et à ses effets.
Alors là, la position donc du juriste, la position maintenant du politique, monsieur le sénateur, est-ce que vous prenez en compte l'avis du citoyen dans la confection de la loi ?
Oui, bien sûr, car on tient compte des données de l'expérience. Mais je voudrais livrer deux notations contradictoires. Pour le citoyen, en règle générale, une loi est votée dès la conférence de presse du ministre qui annonce son projet. Dans son esprit, c'est fait, c'est plié, c'est terminé.
C'est une volonté politique.
Non, c'est la médiatisation qui le veut. Le Premier ministre dit, voilà ce que nous allons faire. C'est annoncé par les médias et on considère que c'est fait. Alors que le processus législatif ne s'est pas encore déroulé. Bon. Seconde notation qui est contradictoire. Nous nous sommes dotés, quelques années, comme l'Institut de France le fait avec Canal Académie, d'un média spécialisé, chaîne parlementaire, et pour nous au Sénat, elle s'appelle Public Sénat. Et ainsi, on couvre le déroulement de débats législatifs, en expliquant et en faisant pénétrer le téléspectateur dans l'hémicycle. Eh bien, je dois vous dire, et c'est une notation plus rassurante que la précédente, qu'il y a bon nombre de personnes qui s'y intéressent, qui posent des questions et qui se passionnent pour le sujet. À mon avis, si on explique et si on se comporte bien, dignement, n'est-ce pas, si on exerce nos fonctions représentatives de notre mieux, avec une vraie concentration sur le travail parlementaire, et si on est capable de dire comment ça s'élabore et à quoi cela sert, il y a dans l'opinion, je crois en être certain, de larges couches de la population qui peuvent tout à fait se passionner pour ces sujets. Mais bon, il faut naturellement que le travail soit du travail bien fait pour être audible et respectable.
C'est un long travail de pédagogie et nous sommes d'autant plus sensibles à votre message, monsieur le sénateur, sur Canal Académie, que nous rediffuserons prochainement, nous diffuserons en direct les séances de l'Académie des sciences morales et politiques tous les lundis à 15h pour que l'on puisse écouter justement ces séances à travers le monde entier grâce à cette radio, la première radio académique francophone. Merci infiniment, messieurs, pour ce débat autour de la confection de la loi. Je renverrai prochainement à la lecture de votre ouvrage, enfin de votre rapport qui sera publié, monsieur Drago, aux presses universitaires de France. Nous en avertirons bien sûr les auditeurs de Canal Académie. Pour l'instant, ce rapport, nous pouvons le lire sur Internet. Je rappelle le site de l'Académie des sciences morales et politiques, www.asmp.fr. Invité d'éclairage aujourd'hui, donc, monsieur Roland Drago, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Merci également à monsieur Philippe Marigny, sénateur de l'Oise, maire de Compiègne et rapporteur de la Commission des finances du Sénat. Je vous dis à très bientôt sur Canal Académie. Merci, messieurs. Bonsoir.
Canal Académie.